Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une étoile très brillante et très visible en été. Elle fait partie d'une petite constellation. Nous allons ensemble étudier l'étoile Vega. Vega fait partie de la constellation de la Lyre, qui est visible au zénith pendant toutes les nuits d'été. Le zénith, c'est le point le plus haut du ciel, situé au-dessus de l'observateur. À l'opposé, le nadir est le point le plus en bas, situé en dessous de nous. La Lyre est assez facile à repérer. Il suffit de bien lever les yeux. Vous verrez tout de suite son étoile la plus brillante, Vega, qui fait partie du triangle d'été, également appelé le triangle des nuits d'été ou encore les trois belles de l'été. Ce triangle est composé de trois étoiles très brillantes. Vega dans la constellation de la Lyre, Deneb dans la constellation du Cygne et Altair dans la constellation de l'Aigle. Ces trois étoiles sont visibles toute la nuit pendant l'été. Et malgré son nom, le triangle d'été est aussi visible tout le reste de l'année depuis l'hémisphère nord, mais pas pendant toute la nuit. Il a l'apparence d'un triangle isocèle, dont Altair serait le sommet et le segment Deneb-Vega serait la base. Même avec de mauvaises conditions d'observation, s'il y a de la luminosité parasite ou même une petite brume, ce triangle reste facile à observer. Mais revenons à notre Lyre. D'autres étoiles sont visibles dans cette constellation qui a une forme de club de golf. Les quatre autres étoiles moins brillantes que Vega forment un parallélogramme. La Lyre, c'est une constellation assez ancienne. Les civilisations antiques du Moyen-Orient et de l'Inde y voyaient un vautour. Le nom de Vega vient d'ailleurs de la phrase en arabe qui veut dire le vautour plongeant ou l'aigle tombant. Les astronomes grecs y voyaient, eux, une lyre, ou plutôt une kithara. Les cartes du ciel les plus vieilles la représentent généralement comme tenue dans les griffes d'un vautour. Sous la forme d'un vautour, cette constellation s'est raccrochée à la légende d'Hercule, qui, pour son sixième travail, devait tuer les oiseaux du lac Stymphale. La constellation est d'ailleurs proche du cygne et de l'aigle. Beaucoup de constellations sont rapprochées à la légende d'Hercule, mais pour ça, je vous laisse écouter mon émission dédiée à cette constellation. Mais une autre explication est présente dans la mythologie grecque. La lyre représenterait l'instrument de musique d'Orphée. Orphée, c'est un musicien et un poète. Il est fils du roi de Tars et de la muse Calliope, la muse de la poésie épique. Le jour même de ses noces avec Orphée, la dryade Eurydice, fuyant Aristée qui l'importune, est mordue par un serpent caché dans les hautes herbes. Elle en meurt et descend au royaume des enfers. Orphée, inconsolable, y descend à sa suite. Et après avoir endormi de sa musique enchanteresse le Cerbère, le monstrueux chien à trois têtes qui en garde l'entrée, il peut enfin approcher le dieu Hadès et son épouse Perséphone. Il parvient, grâce à sa musique, à les faire fléchir, et celui-ci le laisse repartir avec sa bien-aimée, à condition qu'elle le suive en silence, et que lui ne se retourne ni ne lui parle, avant qu'ils soient tous les deux revenus sur la terre dans le monde des vivants. Et alors qu'Orphée s'apprête à sortir des enfers, n'entendant plus les pas de sa bien-aimée et impatient de la voir, et ayant peur que son amour lui échappe encore, il se retourne imprudemment et la paiera jamais. Il semblerait que le mythe d'Orphée ne soit pas propre à la seule culture de la Grèce antique, mais qu'il ait des origines plus anciennes, peut-être paléolithiques. Ça a été remarqué dès la fin du XIXe siècle par le philologue Charles-Félix Hyacinthe Gouillet, lequel indiquait un récit semblable chez les Iroquois. Il est possible que les deux légendes similaires aient une seule et même origine, une légende remontant jusqu'au temps paléolithique, qui, à une époque impossible à préciser, aurait été transportée au Canada, probablement par les grandes migrations eurasiennes. Mais revenons à notre étoile du jour, Vega. Elle est aussi connue sous le nom Alpha Lyrae. C'est l'une des étoiles les plus brillantes et les plus étudiées du ciel nocturne. Elle est située à environ 25 années-lumière de la Terre. Vega, c'est la cinquième étoile la plus brillante vue depuis notre planète, et la deuxième étoile la plus brillante de l'hémisphère nord après Arcturus. Son éclat et sa proximité relative en font un objet d'étude privilégié pour les astronomes. Elle a une magnitude apparente de 0,03, ce qui la rend facilement visible à l'œil nu, même dans des zones avec une certaine pollution lumineuse. En termes de luminosité absolue, Vega est 40 fois plus lumineuse que notre Soleil. Cette luminosité est due à la fois à sa température de surface élevée, mais aussi à sa taille. La température de surface de Vega, c'est à peu près 9600 Kelvin, presque deux fois plus chaud que la température de surface du Soleil. Historiquement, Vega a joué un rôle crucial comme repère céleste. Il y a environ 12 000 ans, en raison de la précession des équinoxes, Vega était l'étoile polaire, un titre actuellement détenu par Polaris. Dans environ 14 000 ans, Vega redeviendra l'étoile polaire. Cette précession est due à la lente oscillation de l'axe de la rotation de la Terre, mais je vous en ai déjà parlé. Par sa grande luminosité, Vega est une référence dans l'histoire de l'astronomie. Elle collectionne les premières places. Première étoile autre que le Soleil à avoir été photographiée. Le cliché, un daguerréotype, date du 17 juillet 1850 au Harvard College Observatory. Vega est également à l'origine de la première image de spectre électromagnétique. C'est son premier photographe, John Draper, qui prit aussi la première image du spectre électromagnétique d'une étoile autre que le Soleil. Mais tiens, est-ce que je vous ai déjà dit ce que c'est le spectre d'une étoile ? Bon, vous le savez sûrement parce que vous avez déjà observé un arc-en-ciel, la lumière blanche est un mélange de plusieurs couleurs qui peuvent être décomposées quand elles passent dans une goutte d'eau ou dans un prisme, par exemple. C'est Newton le premier qui a fait cette découverte en constatant en 1666 qu'au travers d'un prisme, la lumière blanche se décompose en spectre continu qui va du violet au rouge, comme dans l'arc-en-ciel. Deux siècles plus tard, on constate la présence de raies noires dans le spectre de la lumière, comme des trous. Et l'opticien allemand Fraunhofer découvre que ces raies sont provoquées par l'absorption de certaines longueurs d'onde par les milieux qu'elles traversent. Autrement dit, quand la lumière traverse certains gaz, comme par exemple l'oxygène, eh bien certaines longueurs d'onde peuvent être absorbées par le gaz, ou plus certainement diffusées, et donc forment des trous que l'on observe dans le spectre final. C'est-à-dire que certaines longueurs d'onde ne sont pas présentes dans le cercle, dans le spectre final. En observant le spectre de Vega, John Draper va repérer ces trous et postuler qu'on peut, grâce à ça, déduire l'atmosphère des étoiles. C'est à la suite de cette découverte que le jésuite Angelo Cicci, de l'Observatoire du Vatican, va analyser les lumières de 4000 étoiles et les classifier. Un catalogue complet sera produit aux États-Unis après un des premiers projets quasiment industriels de l'astrophysique, qui permet d'en éditer 9 volumes entre 1918 et 1924. Ce catalogue, le catalogue Henry Draper, du nom du photographe de Vega, classifie plus de 200 000 étoiles. Vega a longtemps été utilisé comme un standard photométrique en astronomie. En d'autres termes, sa luminosité apparente a été utilisée pour calibrer les mesures de luminosité des autres étoiles. En raison de la stabilité de sa brillance, Vega a servi de point de référence essentiel pour les astronomes dans le développement de l'astronomie observationnelle moderne. L'une des découvertes les plus intéressantes concernant Vega, c'est la présence d'un disque de débris circonstellaire. Ce disque, composé de poussière et de petits corps rocheux, est similaire à la ceinture de Kuiper dans notre propre système solaire. Il est la preuve que Vega a traversé une phase de formation planétaire. Et l'étude de ce disque aide les astronomes à comprendre le processus de formation et d'évolution des systèmes planétaires. Bien que Vega soit souvent utilisée comme l'étoile standard, en raison de sa luminosité stable, des études ont montré qu'elle présente une variabilité lumineuse faible mais détectable. Cette variabilité est encore mal comprise et est un sujet de recherche actif. Les anomalies du spectre de Vega, telles que les raies spectrales inhabituelles, ont également été observées. Ces anomalies pourraient être dues à des phénomènes comme la rotation rapide, l'oblation ou encore la présence d'une atmosphère circonstellaire complexe. Comprendre ces anomalies pourrait fournir des informations cruciales sur les propriétés de Vega et des étoiles similaires. Je vous l'ai déjà dit, Vega fait partie d'un astérisme. Un astérisme, c'est un regroupement d'étoiles qui n'ont pas forcément de lien physique entre elles. Cet astérisme très connu, ce sont les trois étoiles brillantes de Vega, Deneb du Cygne et Altair de l'Aigle. Un grand triangle facile à repérer dans les nuits d'été. En début de nuit, Vega est presque au zénith et le triangle s'étend vers l'est. Quand vous aurez repéré le triangle, vous pourrez aussi observer d'autres objets. Par exemple, la constellation de la Flèche, une petite constellation située entre Altair et la Tête du Cygne, à l'intérieur du triangle. Elle est composée de 4 étoiles alignées. Elle pourrait être la Flèche tirée par Hercule pour atteindre l'aigle ou le Cygne. Ou encore, la Flèche tirée par le Sagittaire. Au-dessus de la Flèche, vers le centre du triangle des Belles d'été, vous trouverez la constellation du Petit Renard. Alors, elle est peu connue car peu brillante, elle demande des bonnes conditions d'observation. Il est difficile de la repérer en ville, par exemple. Elle a la forme d'un petit W, comme Cassiopée. Elle n'est d'ailleurs proprement identifiée qu'à la fin du XVIIe siècle par l'astronome polonais Johann Hevelius, sous le nom de Vulpecula cum Anser, le petit renard et l'oie. L'oie était représentée dans la gueule du renard, mais elle n'est plus présente officiellement. Elle a quand même laissé son nom à l'étoile alpha du renard, qui s'appelle Anser. Entre le petit renard et Albireo, le bêta du cygne, vous pourrez voir à l'œil, si votre vue est excellente, mais un peu plus certainement aux jumelles ou avec un télescope, un amas appelé l'amas du cintre, 10 étoiles en forme de porte-manteau. En fait, c'est pas vraiment un amas, mais c'est plutôt un astérisme. Les étoiles qui le composent n'ont pas vraiment de lien entre elles, ni par leur position, ni par leur histoire. Il y a également un magnifique objet du ciel profond à observer dans la constellation du Petit Renard, c'est la nébuleuse de l'Altair. C'est M27, une immense nébuleuse planétaire. Elle peut même être observée avec de bonnes jumelles, où elle apparaît comme un disque faiblement lumineux. Lorsqu'on l'observe avec un télescope de 150 ou 200 mm, M27 a la forme d'un double lobe, un peu comme un sablier. M27 fut découverte par l'astronome français Charles Messier en 1764. Si on compte le faible halo, sa taille est égale à peu près à la moitié de celle de la Lune. D'après cette taille, on peut estimer son âge à 3000 ou 4000 ans. L'étoile centrale à l'origine de la nébuleuse est maintenant très faiblement lumineuse et difficilement observable pour un astronome amateur. C'est une naine blanche, de couleur bleue, donc très chaude. Dans la constellation de la Lyre, il y a aussi deux étoiles doubles, facilement observables aux jumelles, c'est Delta Lyre et Epsilon Lyrae. C'est Delta et Epsilon de la Lyre. Epsilon, c'est un système multiple. Il est situé à 160 années-lumière de la Terre. Il est surnommé le double-double. D'une magnitude de 4,5, elle est visible dans un ciel de banlieue urbaine. Avec une excellente vue, vous pourrez distinguer deux points brillants. On touche là vraiment les limites de la capacité de l'œil. Pour être plus sûr de les voir, prenez une paire de jumelles. Epsilon 1 et 2 sont alors bien distinctes. Et si vous avez une bonne lunette avec un grossissement x50, vous verrez que les deux points sont en fait composés chacun de deux étoiles. Si vous grossissez jusqu'à 150 fois, alors là ça devient très joli puisqu'on voit qu'un couple est perpendiculaire à l'autre. Dans chacune des doubles, une très faible distance angulaire sépare les deux étoiles, de l'ordre de 2 secondes d'arc. Ce qui fait que ce système est un excellent test pour vérifier la qualité de votre équipement d'observation. Chaque double serré tourne l'une autour de l'autre et en environ... Chaque double serré tourne l'une autour de l'autre en environ un millénaire. Et chaque doublet, et bien que lié gravitationnellement, tourne tellement lentement qu'on n'a pas vraiment pu le mesurer à ce jour, mais on l'estime à un demi-million d'années. On ne sait pas non plus très bien comment un tel système solaire a pu se former. Les astronomes pensent que les effets gravitationnels des étoiles proches et les effets de marée imposés par la galaxie finiront par séparer ce quadruplet en deux doubles indépendantes.